Vous écoutez RFI, il est 3h à Beyrouth et Tel Aviv, 22h à Rio.
Diane Berger.
Direction Jérusalem dès le début de ce journal avec les Israéliens qui avaient dû fuir le nord de leur pays à cause du Hezbollah. Un mot revient dans leur bouche à l'annonce du cessez-le-feu, le scepticisme. Nous reviendrons ensuite sur les enjeux économiques de la venue en France du président du Nigeria, sur les révélations au Brésil concernant l'implication de Jair Bolsonaro dans un projet de coup d'État en 2022. Et puis Volkswagen se retire de la région chinoise du Xinjiang, son usine sur place était accusé de recourir au travail forcé des Ouïghours. Pas d'ordre d'évacuation cette nuit à Beyrouth, pas non plus d'annonce de tir de roquettes du Hezbollah vers le sol israélien. Le cessez-le-feu est entré en vigueur il y a quasiment 24 heures entre le mouvement islamiste allié de l'Iran et l'État hébreu. Cela après 2 mois de guerre totale sur le sol libanais et plus d'un an d'échanges de tirs récurrents à la frontière israélo-libanaise. Côté libanais, des milliers de déplacés se sont massés sur les routes pour retrouver des habitations qu'ils avaient dû fuir. En Israël, 60 000 habitants avaient également quitté leurs villes et villages à cause des tirs du Hezbollah. Notre correspondant à Jérusalem, Sami Bourelifa, a rencontré certains de ces Israéliens. Ils sont sceptiques face au cessez-le-feu.
Cela fait 1 an et 2 mois que je vis à l'hôtel, annonce d'emblée Sarah Bitton. L'hôtel, c'est bien pour 1 semaine, mais pas pour aussi longtemps, poursuit cette grand-mère originaire de Kiryat Shmona, à la lisière du Liban. Cessez le feu ou pas, elle restera à Jérusalem.
J'aimerais bien retourner dans le nord, mais je ne m'y sentirais pas en sécurité si le Hezbollah est toujours près de la frontière. On ne peut pas leur faire confiance. Il est possible qu'ils s'éloignent un peu de la frontière, mais l'armée israélienne doit rester au Liban pour garantir qu'ils ne s'approchent plus de nous.
Pourtant, l'accord de cessez-le-feu prévoit bien le retrait de l'armée israélienne du territoire libanais. Raymond Fedida, la belle-sœur de Sarah, est sceptique.
Je ne sais pas, ni le date.
Elle ne sait pas quoi penser de ce cessez-le-feu.
Il faut éradiquer le Hezbollah et ensuite on pourra rentrer chez nous. La situation est très difficile. Je suis ici avec mon mari. J'ai un fils qui est aussi déplacé à Jérusalem et 2 autres fils qui sont ailleurs dans le pays. On n'arrive même plus à se voir. On est éparpillé à travers tout le territoire.
Israël n'a pas encore autorisé officiellement ses 60 000 déplacés à revenir chez eux. Benjamin Netanyahou avait pourtant fait de ce retour des déplacés un objectif de sa guerre contre le Liban. Sami Bourelifa, Jérusalem, RFI.
Ce cessez-le-feu au Liban est le fruit du travail de plusieurs acteurs internationaux, au premier rang desquels les États-Unis et la France. Pour Emmanuel Macron, le président français, c'est un véritable succès diplomatique, Valérie Gasse.
Benjamin Netanyahou voulait exclure la France des discussions sur le cessez-le-feu, mais les autorités libanaises ont insisté pour que Paris reste dans le jeu du processus de négociation engagé depuis des mois avec les États-Unis, dans lequel la France a l'avantage de pouvoir parler au Hezbollah. Et ces derniers jours, Emmanuel Macron s'est entretenu avec toutes les parties impliquées, Benjamin Netanyahou inclus, qui a interrogé le président français sur l'application du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale émis récemment à son encontre. La France respecte ses obligations, mais un juge peut décider d'accorder l'immunité à un chef d'État. Une réponse qui a fait baisser la tension avec le Premier ministre israélien après des semaines d'échanges acerbes entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou qui donnait l'impression qu'un point de non-retour avait été atteint entre les deux dirigeants. La France endosse donc avec les États-Unis le rôle de parrain de l'accord sur le Liban. Joe Biden a remercié Emmanuel Macron pour son implication. Le chef de l'État auquel on reprochait son message brouillé sur le Proche-Orient sort recrédibilisé de cette séquence avant une visite d'État en Arabie Saoudite la semaine prochaine, durant laquelle il aura l'occasion d'évoquer l'autre conflit dans la région, celui de Gaza.
Emmanuel Macron qui essaye aussi de maintenir des bonnes relations avec les pays africains. Justement, Bola Tinubu est arrivé à Paris. C'est la première visite d'État d'un président nigérian en France depuis 24 ans, avec au programme de nombreuses questions économiques. Une réunion du Conseil d'affaires franco-nigérian est prévue ce jeudi à l'Élysée. L'organisation rassemble une 20aine d'entreprises des deux pays. Cela avant un forum d'affaires vendredi matin au siège du MEDEF, la principale organisation patronale française. Il s'agit pour les entrepreneurs français de diversifier leurs investissements dans les secteurs porteurs au Nigeria, mais aussi pour les entreprises nigérianes de renforcer leur présence en France, notamment dans le secteur bancaire. Claire Fage.
Les grandes banques nigérianes accélèrent leur implantation en France à l'occasion de cette visite. Après Access Bank il y a 2 ans, Zenith Bank inaugure cette semaine ses bureaux parisiens et United Bank of Africa doit annoncer le lancement d'une filiale. La finance est l'un des axes de diversification des échanges entre le Nigeria et la France. Car si le commerce bilatéral, plus de 5 milliards d'euros annuels, est de loin le plus volumineux qu'est la France avec un pays d'Afrique subsaharienne, c'est encore très largement grâce aux hydrocarbures et à l'avantage du Nigeria. Les investissements français ont pourtant doublé à 10 milliards d'euros en 10 ans, mais encore trop peu au-delà du géant pétrolier Total. Dans les infrastructures au Nigeria, ce sont les concurrents comme le portugais Mota Engil qui raflent des parts de marché. Le conseil d'affaires franco-nigérian espère que la visite du président Tinubu facilitera les opportunités dans les secteurs d'avenir que sont les transports durables et les énergies vertes, grâce à la fin des subventions aux carburants, mais aussi les industries culturelles et créatives si vivaces au Nigeria et bien sûr l'agro-industrie, au-delà des nouveaux investissements de Danone dans la production laitière.
Claire Fage, ce couac électoral en Namibie où de nombreux habitants faisaient encore la file 4 heures après l'heure de fermeture prévue des bureaux de vote. Des problèmes techniques ont causé d'importants retards. Certains électeurs ont dû attendre parfois 12 heures pour cette présidentielle qui s'annonce particulièrement disputée. La SWAPO, le parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays, pourrait bien être menacée. Quelles conséquences pour Jair Bolsonaro, l'ancien président d'extrême droite du Brésil, mis en cause par un rapport accablant dans un projet de coup d'État en 2022, un putsch qui n'a finalement pas eu lieu. Mais ces révélations sont très préoccupantes à plusieurs niveaux, souligne Odilon Caldeira Neto, coordinateur de l'Observatoire de l'extrême droite à l'Université fédérale de Juiz de Fora.
La gravité de cette affaire ne tient pas seulement à la tentative de coup d'État, bien que l'idée même d'en préparer un soit suffisamment grave. Cela reste toutefois cohérent avec la trajectoire politique de Jair Bolsonaro. Mais le fait que le plan d'exécution comprenait des détails sordides, tels que la possibilité d'empoisonnement, d'assassinat et d'utilisation d'armes lourdes, non seulement contre Lula, mais aussi contre le vice-président élu et le juge à la Cour suprême, cela montre qu'il s'agit d'un événement sans précédent. Il est sans précédent d'un point de vue juridique et politique, mais aussi, je dirais, d'un point de vue moral. Ces accusations démontrent le degré d'intensité du radicalisme et le caractère antidémocratique de Bolsonaro et de ceux qui l'ont soutenu.
Aux États-Unis, Donald Trump choisit un fidèle pour le poste d'émissaire pour l'Ukraine et la Russie. Le général à la retraite Keith Kellogg pour ce nouveau poste créé de toutes pièces par le futur dirigeant américain qui a promis pendant sa campagne qu'il mettrait fin très rapidement à la guerre entre Kiev et Moscou sans jamais préciser comment. Donald Trump, qui a aussi échangé ce soir avec la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, il affirme s'être mis d'accord avec elle pour stopper l'immigration. Elle-même a confirmé cette discussion, mais elle n'a pas mentionné de tel engagement. Le géant de l'automobile Volkswagen se retire du Xinjiang. Le groupe allemand évoque des raisons économiques, mais son implantation dans cette région de l'ouest de la Chine était très critiqué. Nathanaël Vitran, son usine sur place, est soupçonné d'avoir eu recours au travail forcé de la minorité ouïghour.
Volkswagen était implanté à Urumqi, la capitale du Xinjiang, depuis 2013. Comme la plupart des grands groupes internationaux, elle y avait un partenaire local, l'entreprise publique chinoise SAIC Motor. Ses parts dans l'usine et dans une piste d'essai située dans la même région doivent être cédées à une autre entreprise d'État chinoise. Pendant 10 ans, les partenariats de ce type ont permis aux constructeurs occidentaux d'exporter massivement en Chine. Mais désormais, ce sont les voitures chinoises qui menacent d'inonder le marché européen. Au point que Volkswagen envisage de fermer des usines en Allemagne. En se retirant du Xinjiang, l'entreprise allemande fait rentrer de l'argent dans les caisses, mais espère aussi éteindre les critiques, alors que sa présence était de plus en plus contestée. Au-delà de son image dans l'opinion publique, alors que Pékin est accusé d'avoir interné plus d'un million de Ouïghours et de pratiquer la torture, la stérilisation et le travail forcé, la pression est aussi venue de Washington, qui en fin de semaine dernière a renforcé la liste noire des entreprises interdites d'exporter aux États-Unis en raison de leur présence dans le Xinjiang.
Nathanaël Vitran du service économie de RFI. Et puis cette mauvaise nouvelle pour les personnes qui ne peuvent pas commencer leur journée sans café. Le cours de l'Arabica est à son plus haut niveau depuis quasiment 50 ans. Une envolée des prix causée essentiellement par la sécheresse et les incendies qui ont ravagé le Brésil cette année. Il est maintenant 1h10 en temps universel. C'est l'heure de Priorité Santé. Merci d'écouter RFI.